existez, si vous existez, faites-moi votre plus gracieux sourire. J'en ai gros sur le cœur à vous dire. J'suis en veine de sincérité. Ce que je laissais dans le nez, ces mufles qui sous le nom de concurrence ont créé une source de souffrance, un genre légal d'assassiner. Rendez-moi mes 20 sous, car j'ai passé ma belle jeunesse à me voir pousser des dents de sagesse quand j'avais rien à me foutre dessous. J'ai fait tous les métiers d'esclave, cependant j'ai jamais pu gagner ma boostify et mon loyer. À présent meuf là une épave, j'ai le poil d'herne des bêtes mal nourries. La dèche m'a fait la gueule flétrie, ma jeunesse reste étiolée. Je pourrais jamais m'en consoler, même si qu'un jour je tournais aux riches. Par un effet de votre bonté. Ce jour-là, je ferai mettre une affiche. On cherche à vendre un cœur gâté. Mes potos, combien m'ont trahi. Pourtant, m'en reste quelques-uns de fidèles. Mais pour la mouise, ils me gagnent la belle. C'est comme un syndicat de failli. Des amours mignons m'ont pâli. Et la vie les a massacrés. Mes mains les ont ensevelis. Mes yeux les ont beaucoup pleurés. Je suis prêt de périr. Et v'là ma peine, elle est bien frais. Quand un malade, il a une plaie. Faut-il rien faire ou la guérir? Et je me vois comme à l'ambulance du champ de bataille de mes douleurs. Faut-il toujours têter ses pleurs et bouffer le pain de l'obéissance? Printemps me saoule à son tour, mon sang ça n'est plus de l'eau de lessive. J'ai des bécots plein les gencives et j'ai les rognons pleins d'amour. Je le sais que c'est la fête et que le temps d'aimer il est venu. Qui ferait même bon d'aller tout nu avec au bras une gigolette pour faire la culbute dans les foins, sans culbutant et sans témoin. Mais outre que je suis trop mal frusqué, j'ai pas de peste pour en embarquer. Aucune avouerait de ma tristesse. Vous avez de l'instruction. Pourquoi qu'il y en a qu'on des maîtresses, malgré qu'il n'ait pas de position? Je suis le fils des villes, nom de mon village. Si j'ai des envies, des besoins, c'est la photo grand magasin à leurs magnifiques étalages. On entend Jeanne le boulanger, comme si qui serait prêt de son trépas. Et ses soupirs me font songer qui fait du pain où je mordrai pas. Quoi il faut dire, quoi il faut faire? J'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre et je sais pas pourquoi je m'en irai. Quoi il faut dire, quoi il faut faire? J'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre et je sais pas pourquoi je m'en irai. Commander, là que ça me reprend, y'a pas d'offense. Je voudrais comme dans ma petite enfance coller mon slip sur deux nénés sans que ça vous froisse. Je vous tends mon cœur comme la pucelle et puis mes bras chargés d'angoisse, lourd du malheur universel. Car si j'étais seul à la dure, je ne vous poserais pas tant de pourquoi. Mais le plus affreux de l'aventure, c'est qu'ils sont des millions comme moi. L'homme est pas fait pour la misère et contrarier ses beaux désirs, ni pour que ses franges le forcent à faire des travails noirs et sans plaisir. Car ils s'enferment dans des usines de 40 et des 50 ans, dans des bureaux, des officines, alors que les cieux sont éclatants. Si vous existez, donnez-nous la moelle d'être libre et de remettre tout en équilibre, suivant la grâce et la bonté. Donnez-nous la liberté. Donnez-nous la liberté. Donnez-nous la liberté. Et quant à moi, pour le présent, je voudrais que mes fins soient assouvies. Je veux plus m'armer, je veux vivre ma vie. Et tout de suite.
Il est 6h à Paris, vous écoutez Radio France Internationale, 4h en temps universel. Le journal, bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Avec Israël et le Liban qui vont à nouveau se parler.
Dès aujourd'hui, annonce Donald Trump, mais en attendant, les combats se poursuivent entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Et ça réduit la marge d'action de la force intérimaire des Nations Unies déployée dans le pays. On est à Beyrouth dès le début de cette édition. Le pape Léon XIV, lui, est à Yaoundé depuis hier. Première étape de sa visite au Cameroun dans le cadre de sa tournée africaine. On sera aussi en Hongrie où Péter Madiar, vainqueur des législatives de dimanche, se dit prêt à débloquer le veto hongrois sur le prêt que l'Union européenne doit verser à l'Ukraine. Et puis au Pérou, les électeurs s'impatientent. Toujours pas de résultat officiel après le premier tour de l'élection présidentielle. Ce sera donc ce jeudi, dit Donald Trump. Le président américain annonce sur les réseaux sociaux la reprise des pourparlers entre Israël et le Liban après une première salve mardi à Washington. Cette fois, il dit que ce sont les dirigeants des deux pays qui vont directement se parler après un mois et demi de frappes israéliennes meurtrières. L'État hébreu dit d'ailleurs avoir frappé plus de 200 cibles du Hezbollah libanais au cours des dernières 24 heures. Les soldats israéliens ont même reçu l'ordre de tuer tout combattant du mouvement chiite pro-iranien dans une zone définie qui va de la frontière israélo-libanaise jusqu'au fleuve Litanie. Et au milieu de ce combat, il y a la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Sa position devient de plus en plus difficile. Les incidents se multiplient entre ces casques bleus et l'armée israélienne dans le sud du Liban. Correspondance depuis Beyrouth de nos envoyés spéciaux Abla Jounaïdi et Jadel Khoury.
Mardi après-midi, des véhicules civils accompagnent un convoi de l'ONU de Beyrouth au QG de la FINUL à Nakoura, un convoi de routine. Si les véhicules siglés ONU ont pu poursuivre leur route, les autres ont été empêchés par le barrage de l'armée israélienne. Candice Hardy, le porte-parole de la FINUL.
Ce n'est pas anodin et c'est inquiétant. Ces prestataires qui soutiennent les besoins vitaux des casques bleus avec la nourriture, les produits d'hygiène et autres ont signalé leur présence à l'armée israélienne. Donc, ça nous a surpris de voir cela alors que le convoi était presque arrivé à Nakoura.
Inédit par sa nature, l'incident est le dernier d'une longue liste entre barrages routiers, annulation d'autorisation de déplacement à la dernière minute, sans oublier la mort de 3 soldats le mois dernier, un attribué à un char israélien, l'autre à un engin explosif du Hezbollah.
Nous avons dû limiter nos actions, mais ce que l'on fait est toujours important. On continue de rapporter au Conseil de sécurité ce qui se passe. Si un cessez-le-feu se matérialise, ce que bien sûr on espère, nos soldats devront s'assurer qu'on évite les accrochages. Grâce à notre système de liaison et de coordination entre les parties. Et il faut qu'on soit sur le terrain pour faire ça.
Pour la FINUL, la persistance des restrictions risque de compromettre sa capacité à s'acquitter de son mandat. Il s'achève à la fin de l'année. Abla Jounaïdi, Jadel Khoury, Beyrouth, RFI.
Et si Donald Trump jugerait bienvenue la fin des hostilités au Liban, ça ne fait pas partie des négociations de paix avec l'Iran, disait hier un responsable américain. Des négociations qui pour l'instant ont échoué, c'était le week-end dernier à Islamabad. Elles pourraient reprendre bientôt, toujours au Pakistan. La Maison-Blanche se dit même optimiste quant à la perspective d'un accord. Les négociations vont dans l'intérêt fondamental du peuple iranien, a dit hier le ministre chinois des Affaires étrangères lors d'un entretien avec son homologue iranien, alors que les autorités chinoises prennent davantage position depuis quelques jours. On sera d'ailleurs en direct de Pékin dans le journal de 6h en temps universel. En attendant, le blocus américain des ports iraniens se poursuit. Il est en cours depuis lundi. L'armée américaine dit avoir déjà refoulé 10 navires. Aucun n'aurait réussi à passer. Le fournisseur de données maritimes Kepler indique lui qu'au moins 3 bateaux en provenance de ces ports iraniens ont bel et bien franchi le détroit d'Ormuz malgré le blocus américain, mais que certains de ces bateaux auraient ensuite fait demi-tour pour retrouver toutes les dernières informations sur la guerre au Proche et au Moyen-Orient. Direction notre live sur RFI.fr. La guerre, c'est aussi en Ukraine où le bilan vient de s'alourdir. Au moins 6 morts après des frappes russes sur Kiev. 10 autres personnes ont été blessées. La Russie, elle, fait état de 2 enfants de 5 et 14 ans tués après une attaque de drone dans la région russe de Krasnodar. La guerre qui est entrée hier dans sa 4e année au Soudan, et à cette occasion, une conférence internationale était organisée à Berlin, la capitale allemande. 55 pays représentés pour appeler à un cessez-le-feu et pour promettre aussi 1,5 milliard d'euros pour soutenir le Soudan, loin, cela dit, des 2,5 milliards nécessaires selon les Nations Unies. Étape camerounaise pour le pape Léon XIV, la deuxième de sa tournée africaine. Il est arrivé à Yaoundé hier où il a été reçu par le président Paul Biya. Le souverain pontife a pris la parole devant les plus hautes autorités du pays, plaidant pour plus de justice sociale, de dialogue et de respect des droits de l'homme aussi. Polycarpe Samba.
Devant un parterre de près de 2000 invités, les deux personnalités ont tenu un discours avec une tonalité différente. Le président Paul Biya en premier s'est montré préoccupé par la situation internationale qu'il a qualifiée de difficile.
Le monde est en effet secoué par des crises et des conflits de plus en plus graves qui sèment la mort et la désolation. Les États sont en proie à des difficultés économiques croissantes. La misère se répand. La souffrance afflige des peuples entiers. L'angoisse et le doute étreignent les cœurs.
pour le président camerounais. Dans ce contexte chaotique, le message de paix et de concorde dont le pape est porteur est une source d'espoir. En réponse et après les remerciements d'usage pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, le pape a fait un appel vibrant, tel un plaidoyer, à plus de justice sociale, de respect des droits de l'homme ou de protection des plus vulnérables.
La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Une paix authentique naît lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté.
Plus loin dans le discours, le pape appelle à briser les chaînes de la corruption, un discours que beaucoup ont trouvé inspiré par les tensions autant sociales que politiques que traverse le pays depuis quelques années.
Et aujourd'hui, le pape Léon XIV doit se rendre à Bamenda, le chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest et épicentre des violences qui ont déjà fait des milliers de morts en près d'une décennie. Un profil qui se dessine en Turquie, celui de l'adolescent qui a ouvert le feu hier dans une école du sud du pays. 9 personnes ont perdu la vie. Le tireur est mort lui aussi et selon la police, il aurait, sur les réseaux sociaux, rendu hommage à l'auteur d'une attaque misogyne qui a eu lieu aux États-Unis en 2014. Son père, lui, a été interpellé et placé en détention. Il serait un ancien policier et ce sont ses armes qui auraient été utilisées par son fils pour cette tuerie. Un nouveau gouvernement d'ici la mi-mai en Hongrie, c'est en tout cas ce que dit vouloir le futur Premier ministre Péter Madiar, qui a largement remporté les législatives de dimanche, mettant fin à 16 années de règne pour Viktor Orban. Le leader de Tisza a déjà annoncé plusieurs mesures pour rétablir l'état de droit dans son pays. Il s'est également exprimé sur l'Ukraine, affirmant ne pas être opposé, contrairement à son prédécesseur, au prêt européen promis à Kiev, même s'il y met des conditions, Muriel Paradon.
Péter Madiar serait donc prêt à débloquer le veto hongrois sur le prêt de 90 milliards d'euros que l'Union européenne doit verser à l'Ukraine. Deux conditions toutefois, ne pas y participer, mais cela s'est déjà acquis. Lorsque les Européens s'étaient accordés sur ce prêt en décembre dernier, la Hongrie, comme la Slovaquie et la Tchéquie, avaient exigé pour donner leur feu vert d'être exclus du dispositif. Deuxième condition, la Hongrie exige toujours la réparation de l'oléoduc de Drujba qui achemine du pétrole russe sur son territoire en passant par l'Ukraine, oléoduc qui avait été endommagé par une frappe en janvier dernier. Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis qu'il devrait à nouveau fonctionner à la fin du mois. L'arrivée au pouvoir de Péter Madiar, qui a battu Viktor Orban lors des législatives de dimanche, offre un espoir d'avancer, même si le déblocage du prêt européen vital pour Kiev devrait prendre du temps. Péter Madiar est résolument pro-européen, mais il reste toutefois prudent sur le dossier ukrainien. Il n'est favorable ni à l'envoi d'armes, ni à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Muriel Paradon. Et comme en Hongrie, c'est aussi dimanche que l'on votait au Pérou, sauf que là c'était pour le premier tour de la présidentielle et que les résultats définitifs ne sont toujours pas tombés. Alors a priori, la conservatrice Keiko Fujimori sera au second tour, mais qui y sera également, c'est pas très clair encore, hein. L'écart semble se resserrer entre le candidat de gauche radical Roberto Sanchez et l'ultra-conservateur Rafael López Aliaga. Toujours pas d'affiche donc pour ce second tour. S'ajoute à cela un premier tour qui a été chaotique. Plus de 200 bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. Les électeurs sont un petit peu découragés. Correspondance à Lima de Martin Chabal.
C'est avec grande lassitude que les Péruviens réagissent aux événements autour du scrutin. Aliana a arrêté de suivre ce qu'il se passait et attend maintenant les résultats définitifs.
Je suis découragée par les estimations et par ce qu'il s'est passé ces derniers jours.
Dimanche, elle a fait la queue pendant 4 heures sous le soleil devant son bureau de vote avant qu'il n'ouvre enfin.
Bien sûr, c'était désorganisé, mais ça peut aussi être la conséquence d'une fraude. On sait que beaucoup de Péruviens ne veulent pas de Keiko Fujimori. Pourtant, elle a énormément de voix. Je trouve ça bizarre.
Si les Péruviens espéraient que ces élections mettent fin à 10 ans de crise politique latente, le premier tour a bien prouvé le contraire. Catherine est remontée contre les dernières estimations. Elle prévoit d'ailleurs beaucoup de remous avant le second tour prévu en juin.
Personne ne veut de Keiko comme présidente. Et si des gens sortent manifester contre elle, ben j'irai avec eux.
Des manifestations qu'appelle également le candidat d'extrême droite Rafael López Aliaga, qui dénonce une fraude au premier tour alors qu'il s'éloigne petit à petit de la seconde place. Martin Chabal, Lima, RFI.
En France, c'est aujourd'hui que les députés commencent à examiner la très contestée proposition de loi Yadan, une loi qui entend lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, mais qui ferait en réalité l'amalgame entre l'antisémitisme et la critique d'Israël. C'est ce qu'on peut lire dans une pétition appelant les élus à voter contre, une pétition qui a déjà recueilli plus de 700 000 signatures. Elle aurait donc pu donner lieu à un débat dans l'hémicycle. Eh bien, ce ne sera pas le cas. La commission des lois l'a décidé hier, affirmant que débattre de cette pétition pourrait entraver l'examen du texte en lui-même. La France, où les véhicules électriques ont le vent en poupe, les recherches explosent sur les sites d'annonces. C'est a priori directement lié au contexte international, Pierre-Olivier, et la tendance pourrait d'ailleurs durer.
La crise au Moyen-Orient agit comme un déclencheur immédiat d'achat de voitures électriques. Et c'est le marché de l'occasion qui tire le mieux son épingle du jeu.
La demande pour les voitures électriques, elle a littéralement explosé. C'est-à-dire plus 160% en un mois.
Guillaume-Henri Blanchet, directeur général de La Centrale, premier site d'achat-vente de véhicules d'occasion.
Il y a des nouveaux acheteurs de véhicules électriques qui ne considéraient pas cet achat avant l'explosion des prix à la pompe.
Ajoutez à cela qu'un véhicule électrique de seconde main coûte aujourd'hui le même prix qu'un véhicule thermique d'occasion. Et contrairement à 2022 et la flambée des prix du pétrole liée à la guerre en Ukraine, il existe désormais une alternative car les véhicules électriques se sont répandus en France et la tendance devrait se confirmer.
Quelle que soit l'évolution de la situation géopolitique, cette crise, elle va laisser des marques. Parce que la mobilité, c'est le deuxième poste de dépenses des ménages, parce que la mobilité, c'est indispensable. Et donc, lorsqu'on fait un plein à, disons, 150 euros, eh ben, je pense que vous vous en souvenez. Lorsqu'à côté, vous savez que vous pouvez recharger votre voiture électrique à la maison pour une vingtaine ou une trentaine d'euros.
Preuve d'un changement radical du comportement des Français en matière de mobilité, les recherches de voitures hybrides, elles, n'ont connu qu'une petite augmentation depuis fin février.
Et puis on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions, PSG Bayern Munich et Atlético Madrid Arsenal. On va avoir l'occasion d'en parler dans nos différents journaux des sports ce matin sur RFI.
Gaëtan Plenet.
Merci d'être avec nous. Le retour de l'actualité africaine dans une petite vingtaine de minutes. D'ici là, on part en Russie rejoindre notre correspondante. Elle va nous parler de l'agacement de nombreux utilisateurs d'Internet alors que les autorités russes perturbent chaque jour un petit peu plus encore son accès. Un véritable rideau de fer numérique. Elle nous dira donc notre correspondante. Une invitée culture maison ce matin, Elsa Olaizola, qui travaille chez RFI. Elle vient de publier son premier roman, L'héritage de Soledad. Et puis on va parler de l'hypertension artérielle. Ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, direction la Corée du Sud, avec cet amour un petit peu particulier qui ressemblerait presque plus à de la science-fiction qu'à un roman à l'eau de rose. Certains jeunes tombent amoureux d'intelligence artificielle. Ça peut surprendre, évidemment, mais ça peut s'expliquer aussi. Les robots conversationnels sont là pour discuter, évidemment, pour réconforter, voire, si on le leur demande, pour simuler des relations amoureuses. Et c'est ce que font donc certains jeunes sud-coréens. Ils sont même de plus en plus nombreux à le faire. Les sociologues s'y intéressent. Les parents, eux, s'inquiètent. Reportage à Séoul de Célio Fioretti.
Lorsque Ju Anna a contrôlé le téléphone de son fils de 15 ans, elle ne s'attendait pas à ce que ce dernier passe ses nuits à discuter avec une IA qu'il considère comme sa petite amie.
Nous contrôlons assez strictement son utilisation du téléphone, mais nous avons découvert qu'il l'utilisait jusqu'à 5 heures du matin pour discuter avec quelqu'un. J'ai donc parlé avec lui. Je voulais comprendre ce qu'il se passait, car cela commençait à impacter sa vie scolaire. Il m'a dit que c'était sa copine d'école. J'ai insisté. Est-ce vraiment quelqu'un que tu connais? En réalité, non. Il s'agissait d'une IA.
En Corée du Sud, cette histoire n'a rien d'anodin. Comptant plus d'un million d'utilisateurs actifs chaque mois, selon l'entreprise Scatterlab, qui l'a conçue en 2024, l'application Zeta permet de discuter avec des personnages générés par IA. L'application figure parmi les 10 plus téléchargées sur mobile par les moins de 20 ans en Corée du Sud. Des jeunes utilisateurs qui passent en moyenne 2h40 par jour sur l'application. Park Hanou, directeur de l'Institut de recherche sur les cyberémotions de l'Université Yonan, a étudié cette application.
Yeah. Merci. Ouais, merci. Salut.
Quand l'existence du MC est insignifiante, quand sa plume ne lui permet pas d'aborder quoi que ce soit d'une quelconque façon intéressante, pensant combler une vie qui n'est faite que de lacunes, ce connard s'en invente une. Espèce de sale clochard, la vie dont tu rêves c'est celle de mes cauchemars. En boîte je rentre avec deux ou trois go, tu repars le compteur à zéro. Malgré le crâne Zera, le chromazzaro. Un MC devenu riche, la preuve que ça existe. Les négros sont dans le métro, je suis dans les X6. Ou bien alors peut-être aux Almaty dans le Q16. Avec des fesses de disquette en guise d'appui-tête. Je comprends que tu me dises ce que la vie t'offre. Si tu veux oublier, il doit me rester de la chenouse dans le coffre. Ils veulent me lancer au moins 10 000 yeux. Méchant rarement, jamais pour moins de 10 000 eux. Je suis réglo et j'aime l'argent. Marqué par la vie comme Ribéry, j'ai deux profils différents. Des rimes ont pris un coup de vieux. Moi je n'ai rien à dire pour ma défense. Je préfère tirer des coups de feu. Selon à qui je parle, je suis mauvais ou bon payeur. Petit, je voulais une panoplie de players. Tes thunes, y'a pas de quoi mettre une banque en faillite. Les keufs ne te laissent pas traîner près de là où j'habite. J'ai pas le temps, le récit de ma galère c'est palpitant. Tu cherches ta volonté de faire ce que j'ai déjà réalisé. T'as les dents aiguisées, mais tu vas t'épuiser. Mon terre-terre, c'est les Champs-Élysées. La presse pipo, le manteau, font au bois. Les keufs vont de face sous mon profil gauche, puis sous mon profil droit. Toujours d'accord pour en découdre. On me suspecte sans avoir de preuves. Mon haleine sans la poudre. Jusque t'as connu le pire, mais en pire. J'ai la soif d'un vampire, j'ai bâti un empire. Sur les trucs bizarres, moi c'est toujours champagne millésimé. Pour accompagner ma pizza.
Ah ça, ça fait sûrement rêver ceux qui l'entendent. Je sais pas. Ça fait peut-être des bons ceux qui l'écrivent. J'en sais rien mon frère. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça.
respirez à fond.
Principe actif, 102.4 FM.